Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, j'ajoute pour commencer une petite histoire. Abdel Ben Haddad est le directeur de la sécurité de l'émir le plus puissant du Moyen-Orient depuis de nombreuses années. Une position qui lui a permis de se trouver à la tête d'une fortune considérable. Et cette semaine-là, il vient de recevoir pour la troisième fois le médecin royal qui lui a été exceptionnellement prêté. Et celui-ci lui confirme formellement le diagnostic d'un cancer très avancé du pancréas. Il lui dit qu'on pourra ralentir le mal, mais à ce stade, impossible de le vaincre. C'est assurément une question de mois. Après avoir reconduit le professeur, le général retourne à son bureau très affecté. Comment l'annoncer à sa famille? Combien de temps au juste lui reste-t-il à vivre et que faire? Et pour l'instant, la seule personne à être mise dans la confidence est Nani, une jeune domestique philippine, discrète, toujours présente, qu'il a embauchée il y a quelques années, qui lui inspire confiance et respect. Et il lui dit, Nani, il va falloir vous trouver une nouvelle place. Je n'en ai plus pour très longtemps, vous savez. Et celle-ci de dire alors, général, si vous le permettez, je vais en parler au Father Paul. Abdel, pourtant assez mal disposé à l'égard de la religion chrétienne, qu'il estime idolâtre, religion de la plupart de ses domestiques dans ces pays-là, lui répond sans trop savoir pourquoi, et sans doute parce qu'il se sent perdu, qui sait. Allez plutôt le chercher. Nani s'exécute et le soir même, elle revient accompagnée du prêtre. L'entretien ne dure pas 5 minutes. Ni le militaire, ni le missionnaire ne sont de grands bavards. Ce dernier a seulement le temps de délivrer une étrange prescription aux malades. Celle d'aller se baigner dans une piscine, dans une ville des Pyrénées françaises, le sanctuaire de Lourdes. Après avoir sèchement congédié le prêtre, Abdel rentre dans une grande colère envers Nani, l'accusant de lui faire perdre son temps. Pourquoi, lorsqu'on dispose des meilleurs conseillers médicaux et religieux, aller faire du tourisme en France, se plonger dans une baignoire, c'est ridicule. La jeune Philippine ne se démonte pas. Elle a reçu la confirmation l'année précédente. L'esprit d'audace l'inspire. Et en s'éloignant sur la pointe des pieds, elle risque une dernière parole avant de franchir la porte. Général, si Father Paul vous avait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Alors s'il vous demande seulement une chose facile, baigne-toi et tu seras purifié. La nuit porte conseil. À l'aube, un jet privé quitte la péninsule arabique en direction de l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Et voici notre chef des armées rejoignant la file d'attente des piscines, suant à grosses gouttes au milieu des gardes du corps. Après 1h30 d'attente, le ministre de la Défense se déshabille, se laisse immerger dans l'eau glacée de la grotte. Et en sortant, il a l'intime conviction que non seulement son corps, mais son cœur sont tout entiers purifiés, comme ceux d'un petit enfant. Le médecin confirmera dans quelques heures la disparition soudaine, inexplicable, du cancer. Miracle qui conduira bientôt Abdel à embrasser la vraie foi en recevant le Saint-Baptême. Vous découvrez cette histoire, vous savez où je l'ai eue cette histoire? Dans la Bible. Ici, au chapitre 5 du deuxième livre des rois. Et vous-même, vous venez de l'entendre avec moi en première lecture, juste la fin. C'est la même histoire. Certes, je l'ai un peu remaniée au bout du jour. J'ai un petit peu, à peine, changé la situation géopolitique et religieuse des protagonistes, mais les faits sont là. Faits qui soulignent, dans tous les cas, la présence déterminante de cette disposition spirituelle qu'on appelle l'humilité, et sans laquelle la grâce divine ne saurait purifier, transformer le monde. Vous voyez, on vérifie la présence de cette humilité si déterminante à travers des éléments très concrets que je vous invite à repérer aussi bien dans les textes de la liturgie de ce dimanche que dans votre vie. Le récit de Naaman le Syrien, le récit originel évidemment, comme celui du Samaritain guéri de sa lèpre par le Seigneur, permettent de souligner la présence de cette humilité à double titre. En amont, dans l'acte de foi posé, qui appelle une obéissance humble, qui fait poser un acte concret Car la foi n'est pas simplement une adhésion intellectuelle, ça nous mobilise dans notre corps, ça suscite des gestes, et puis on avale dans l'action de grâce que provoque l'action de Dieu chez le vrai disciple. D'abord, laissons-nous toucher par cette humilité en amont des signes que Dieu inspire en général. Comprenons intelligemment que le christianisme, mais sa force est aussi sa faiblesse, en ce sens que Dieu, en se disposant des artifices habituels, ce que se figurent les religions humaines, Dieu prend le risque de ne pas être pris au sérieux, au fond. Voyez, lorsque les hommes s'inventent des croyances, des religions, des pratiques, des messages, ils inventent des signes qui peuvent, pour paraître crédibles, sont souvent bizarres, sophistiqués, réservés à quelques initiés. Lorsque Dieu se révèle et agit, il suscite des pratiques qui deviennent presque suspectes par leur simplicité, tout au contraire, qui risquent parfois de susciter davantage l'incrédulité que la foi. C'est tellement simple. Plouf, et ça y est. Comment voulez-vous convaincre des personnes un tant soit peu lettrées, voire très éclairées, c'est encore pire, qu'il faille recevoir un peu d'eau et une parole attribuée à Jésus de Nazareth pour accéder au chemin du salut? Ça s'appelle le baptême. Et gratuitement en plus. Vous n'auriez pas un truc ou autre chose en magasin, je suis prêt à payer, j'ai les moyens. Non. Le pardon. Une simple confession à voix basse dans le creux de l'oreille d'un pauvre ministre du culte suffirait pour recouvrer mon cœur d'enfant, mon innocence, c'est tout. C'est pas autre chose. Un truc qu'on se fouette, je sais pas. Un parcours à faire. Juste ça. Le mariage. Un bref échange de paroles devant la communauté pour que l'amour d'un homme et d'une femme soit scellé dans une alliance infrangible. On ne pourrait pas rajouter un truc, faire un peu plus sérieux, on va mettre du décorum. On va demander à Lux Amoris de bien chanter, animer la messe, on va mettre du... Oui, parce que juste ça et le mariage, oui. Un geste de la main, une onction d'huile bénie pour faire de moi un chrétien confirmé dans l'audace de l'Esprit-Saint ou un prêtre du Seigneur. C'est fou. Le pire, un peu de pain, un peu de vin, une prière du prêtre, convertissent invisiblement en corps et sang du Christ ressuscité, donné en nourriture à mon âme pour m'unir à lui, me disposer moi-même à ressusciter. C'est fou. Les sacrements, pour s'en tenir aux signes sacrés majeurs, sont déconcertants par leur pauvreté. Mais cette simplicité n'est-elle pas précisément, chers amis, un signe de leur authenticité divine, de leur divine origine, donc de la richesse extraordinaire qu'ils communiquent. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin d'en imposer, voyez. Il se manifeste à celui qui veut bien discerner sa présence. Et avoir la foi, frères et sœurs, c'est rejoindre le Seigneur dans ses abaissements, y compris matériels. C'est se soumettre, comme le fait Naaman le Syrien dans l'histoire originelle, à la parole du prophète Élisée qui lui indique de se baigner 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Lui qui n'est pas un fils du peuple élu, qui a grandi dans des croyances parfaitement imaginaires peut-être. Tous ces gestes, qui sont les gestes de Dieu, avant que nous les fassions nôtres, gardent notre foi de l'orgueil des beaux raisonnements. Voyez, nous-mêmes, on ne se contente pas de proclamer l'évangile de vérité chaque dimanche sans prendre la peine dans la suite de la liturgie de nous agenouiller avec tout notre corps devant le corps eucharistique de celui qui est la vérité même. Pour ne pas nous contenter d'une adhésion intellectuelle et distante, pour adhérer avec notre corps, toute notre personne, en nous prosternant comme le Samaritain qui se jette face contre terre aux pieds de Jésus. Alors justement, revenons un instant à l'évangile pour admirer cette humilité requise tant en amont qu'en aval. D'abord, à quel moment, voyez-vous, les 10 lépreux rencontrés par Jésus sont-ils guéris? Saint Luc le mentionne, en cours de route. Autrement dit, la grâce de la guérison se déploie à travers l'exécution du mouvement indiqué par le Seigneur. En l'occurrence, il leur demande de faire un petit pèlerinage au temple. Les 10 lépreux obéissent humblement à l'ordre du Seigneur. Ils se mettent en route. C'est la condition du miracle. Mais une chose est de recevoir la grâce dans nos vies. Une autre est de la conserver. Ça aussi, il faut le repérer dans les différents récits. Naaman le Syrien remporte de la terre sainte sur deux mulets et promet de prier désormais le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. On remarque donc que la foi rend intelligent, consent à se rapprocher de la révélation divine. Et dans l'épisode évangélique, un lépreux sur dix comprend qui est l'unique prêtre auquel il faut se présenter. Alors je précise toutefois pour la logique du récit qu'en tant que samaritain, de toute façon, le bonhomme, ce qui n'est pas le cas des neuf autres, il n'aurait pas pu franchir les barrières de sécurité du temple, ne pas se présenter au prêtre, qui n'aurait accueilli que des juifs. Donc, ce mouvement, le fait d'avoir été touché par la grâce, a dû l'aider à réfléchir sur les options à prendre et à obéir plus profondément à la parole de Jésus qui s'accomplit, car en se présentant à Jésus, il se présente au prêtre, chargé d'attester, de confirmer la guérison. Et lui est sans doute le seul qui va parvenir à conserver la grâce au sens non seulement physique mais spirituel. Le mouvement initial de la foi qui le met en route s'achève dans ce demi-tour de conversion et l'action de grâce, l'adoration exprimée devant le Fils de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce détail n'en est pas un. Que de grâce effectivement reçue dans nos vies risque de se perdre par défaut d'action de grâce. C'est l'action de grâce qui conserve la grâce. Si l'humilité est le principe de la communication des dons de Dieu en amont, l'humilité, c'est encore la condition de la conservation de la grâce en aval. Vivre dans l'action de grâce pour un chrétien, dire merci au Seigneur, est de notre plus grand intérêt. Vous voyez, c'est pour cela, par exemple, que dans le sacrement de pénitence, vous vous confessez régulièrement, vous le savez bien, eh bien, pour se conserver dans l'humilité, la grâce d'un nouveau départ, eh bien, on reçoit une pénitence qui va nous maintenir en état de grâce pour cette raison. Frères et sœurs bien-aimés, ces deux dimensions de la foi, la simplicité du signe, la nécessité de la gratitude, elles sont convoquées chaque dimanche dans la communion eucharistique, quand nous venons ici, sous l'humble apparence du pain et du vin, dans le geste si simple de la communion, et d'abord de la consécration, de l'élévation, chacun d'entre nous pourra reconnaître la présence agissante de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, rendu présent dans la puissance de l'Esprit. Nous allons pouvoir poser un acte de foi en notre Créateur et Sauveur, caché dans l'humilité de ses signes. Mais la rencontre eucharistique, la communion, pourrait encore avoir des effets dans les jours à venir, jusqu'à dimanche prochain, si vous le voulez bien, si nous consentons à prolonger toute cette semaine l'action de grâce, bénissant le Seigneur de nous avoir visités, comblés de sa présence. Frères et sœurs bien-aimés, ne craignons pas de nous prosterner humblement pour rejoindre Dieu dans son adorable abaissement, et laissons-nous surtout entraîner à l'action de grâce, poursuivant la route en bénissant à tout instant Jésus-Christ, le seul ami à qui nous devons pleinement notre salut en ce monde et espérons louablement pour l'éternité. Amen.